Le karaté et les arts martiaux peuvent permettre aux personnes autistes de s'exprimer, d'apprendre la discipline, de sortir de leur bulle et de connaître des victoires qui leur donneront le goût de se surpasser. Comment mettre en place un environnement favorable à leur épanouissement sportif? On l'apprend dans un instant au Signal. Kevin Breton au micro pour cette nouvelle émission d'Au Signal. Toujours heureux de vous retrouver comme à chaque vendredi midi. Aujourd'hui à l'émission, je suis très heureux puisqu'on a en studio deux... Faudrait pas que je fasse de mauvais coups puis qu'on décide de me faire une savate parce qu'on a en studio des ceintures noires. Tout d'abord, à ma droite, il y a André Langevin, professeur de karaté chez Karaté Autisme. Bonjour.
Bonjour, Kevin.
Et vous avez amené avec nous votre assistant sur les dojos. On appelle ça un dojo, le tapis sur lequel on enseigne.
Effectivement, le dojo de Montréal.
Avec vous, donc, quelqu'un qui vous aide comme instructeur, Marc-Antoine Bourget, qui est ceinture noire également, et autiste. Bonjour, Marc-Antoine.
Bonjour.
Donc, moi, j'ai appris l'existence de karaté autisme, André, par le biais d'un reportage que ma collègue chez Ami Télé avait déjà fait. Puis j'avais été vraiment épaté de savoir comment cette forme d'arts martiaux pouvait vraiment venir en aide aux personnes autistes. Peut-être que je peux vous demander d'abord, vous, comment est-ce que ça vous est venu en tête l'idée de combiner le karaté et l'épanouissement sportif des personnes autistes?
Bien, tout d'abord, moi, ça a commencé avec mon garçon, qu'à l'âge de 4 ans, il était non-verbal. Puis, on était prêts, moi puis mon épouse, de tout essayer pour être capable de l'aider à s'améliorer. Fait qu'on a tout essayé, en fin de compte. Mm-hmm. Il a joué au soccer, il a fait de la gymnastique. Pour vous donner un exemple, quand il a commencé à jouer au soccer, il regardait même pas le ballon. Il fallait lui crier que le ballon s'en venait vers lui. Donc, c'était le niveau d'autisme qu'il était. Là, il était vraiment non-verbal. Puis, vers l'âge de 8 ans, là, on l'a mis dans un... on a commencé... Ma plus vieille avait commencé du karaté, mais moi, je suis déjà ceinture noire depuis 30 ans. Là, donc, ça fait longtemps. J'ai enseigné un peu partout à travers le Canada, d'ailleurs. Mm-hmm. Parce que j'ai voyagé au Canada. Puis... là, j'ai décidé vers à peu près 10 ans, je dirais. Là, on a commencé du karaté tranquillement, puis dans une école de taekwondo. Puis j'ai effectivement, au commencement, c'était ardu parce qu'il se pognait avec les autres, puis tout ça. Il y avait beaucoup de problèmes de sociabilité. Uh-huh. Puis avec le temps, là, écoutez, on s'est rendu ceinture verte en taekwondo, puis là, je me suis rendu compte, écoute, je suis ceinture noire, j'ai beaucoup d'expérience en autisme. Donc, pourquoi pas partir ma propre organisation?
Mettre ça à profit, en fait.
Exactement.
Parce que vous étiez déjà expérimenté en karaté. Puis là, vous avez eu un bon contact de premier degré, étant donné que votre fils était autiste.
Exact.
Puis là, de fil en aiguille, ça s'est développé comment? Vous avez invité d'autres parents avec des enfants autistes à joindre le karaté avec vous?
Ou... J'ai commencé avec Espace-Temps à l'île Perrault, qui, la madame, elle avait un garçon autiste. Uh-huh. Puis elle m'a offert un local. Puis j'ai commencé tranquillement, de bouche à oreille. J'ai fait environ les 3-4 premières années. J'ai fait du bénévolat, puis je ferai mes cours pratiquement gratuitement. Là. Puis c'est vraiment le bouche-à-oreille, la réputation qui s'est montée. Puis je peux dire que depuis 2009 que je pratique les arts martiaux adaptés, j'ai rencontré plusieurs centaines maintenant d'étudiants. Présentement, à l'heure actuelle...
En ce moment, vous en avez une centaine d'inscriptions.
J'ai plus d'une centaine d'étudiants actifs, à part de leurs parents, qui participent également aux formations.
Ça fait combien de temps que c'est en place, cette école?
Depuis 2009 que j'ai commencé.
Là. OK. Donc, c'est vraiment une progression fulgurante. Mais si on vient sur le plan un peu plus individuel, vous me parliez de votre fils qui était au départ non-verbal. Donc, la communication, c'était vraiment difficile pour lui. Maintenant, est-ce que vous pensez... premièrement, est-ce que sa qualité de communicateur s'est améliorée?
Oui, mais mon fils a d'ailleurs donné une conférence au Palais des Congrès devant des médecins récemment.
Donc, la progression
en anglais
est fulgurante.
Oui.
Puis, on devine que c'est probablement pas que le karaté qui l'a aidé dans sa progression, mais ça a été une bonne bougie d'allumage. Là.
Effectivement. Le karaté, plus de toute l'implication que mon épouse a faite. Il a été dans les scouts, en fin de compte. Moi, je crois énormément à l'implication des parents. C'est pour ça que moi, dans mes cours de karaté adapté, les parents doivent participer. Ou être du moins sur place, mm-hmm. parce que je pense que les parents sont le meilleur médecin pour leur enfant, surtout au niveau de la communication. J'ai eu vraiment tous les niveaux d'autisme. Je vais vous donner juste un exemple. J'ai eu un autiste qui s'est rendu avec moi jusqu'à ceinture verte. Il était non-voyant, puis en plus, il était schizophrène.
Ouais.
Donc là, on parle de vraiment un gros challenge. Puis le parent a persévéré, puis finalement, malheureusement, la schizophrénie a trop pris le dessus. Puis le petit garçon, il est obligé d'abandonner, là, mais ça faisait 3 ans qu'il en faisait avec moi.
Mais il avait sûrement acquis certaines déjà capacités puis certains bienfaits en pratiquant.
Oh oui, définitivement. Là. Ben, il voyait, lui, il n'était pas complètement non-voyant. Il voyait les ombrages. Mm-hmm. Fait qu'il suivait son père dans une course. C'était vraiment impressionnant, en tout cas.
Ce qu'on entend du karaté souvent, c'est ben, la discipline, le contrôle de soi, le contrôle des émotions. J'imagine que ça, c'est justement des points sur lesquels on peut travailler pour améliorer les capacités sociales des enfants.
Exactement. Puis, ce qui est important à savoir quand tu enseignes des arts martiaux adaptés, c'est que les autistes, plus que les autres personnes, la communication verbale devient primordiale. Les autistes, c'est vraiment, là, ils ressentent énormément ce que tu dégages. Si tu n'es pas à l'aise avec un autiste, il va le ressentir. Puis, donc, la première chose à développer avec eux, c'est la communication. Donc, je dirais qu'on développe une bonne communication en premier avec eux. Puis, ça fait que c'est une chose que les autistes vont développer également. Puis, à travers les autres étudiants également dans le cours, ils vont communiquer avec les autres étudiants aussi. Ils vont se faire des amis. Puis, ensuite de ça, c'est évident que la confiance, la flexibilité, l'équilibre, les autistes ont beaucoup de problèmes. Mon garçon avait des problèmes de motricité, puis c'est assez courant dans l'autisme.
Oui, c'est ça. C'est pas seulement des troubles au niveau psychologique, au niveau psychique, il y a aussi des troubles physiques qui peuvent être associés à l'autisme.
Exactement, exactement. C'est un spectre assez large.
On parlait, oui, évidemment, c'est un spectre large, donc c'est difficile d'avoir vraiment une règle universelle, là, mais on peut avoir quand même une idée générale. On parlait, Marc-André, de l'importance d'entrer en contact avec ces élèves-là lors des cours. On va pouvoir parler plus en détail de votre parcours, mais je profite de votre présence pour vous poser la question. Vous, en tant que personne autiste, est-ce que c'est plus facile d'entrer en communication avec les autres élèves lors des cours?
En général, oui.
Oui, ça se passe mieux parce que est-ce que vous avez comme un ressentiment plus facile à partager ou...
Je ne sais pas si on a les mêmes vibes, là. On se comprend assez bien quand on a le même détachement, mais on a aussi la même implication puis le même genre de compréhension.
Est-ce que c'est plus facile des fois à leur passer des messages? Est-ce que des fois ça peut arriver quand André leur donne une consigne, que ça passe moins bien et que toi tu la reformules et que là ils la comprennent mieux?
Si ils sont ouverts à avoir du plaisir à le faire, oui, en général, ça arrive.
C'est un atout d'avoir Marc-Antoine avec vous sur le tapis, André?
Marc-Antoine, ensuite de ça, j'ai mon garçon aussi. Marc-Antoine, en plus, il est détenteur de deux ceintures noires, une en judo, une en karaté. Mon fils est détenteur d'une ceinture noire. En plus de ça, on a une kinésiologue sur le plancher avec nous qui nous aide, Renée Saint-Onge, Madame
Bon.
Saint-Onge, qui a deux enfants autistes.
Toute une équipe.
On a sept instructeurs, puis on a vraiment beaucoup d'expertise, oui. C'est pas mal,
Est-ce que des fois, les parents sont surpris de voir qu'une personne autiste enseigne, ou si au contraire, ils sont comme réconfortés dans le sens de, en voyant que c'est une personne autiste, ben, il va bien comprendre mon enfant?
Ils sont plus surpris de savoir que je suis autiste que d'autres choses.
Ils sont
Parce
étonnés?
qu'ils ne pensent pas que je le suis.
Oui, au premier coup d'œil, c'est difficile à voir,
Ouais.
là. Puis ça vous est venu comment l'idée, en fait, André, parce que là, on vous avait dit tantôt qu'il y avait une centaine d'inscriptions dans vos cours, donc ça devenait impossible de faire ça tout seul. Faut qu'il y ait un ratio élève-instructeur qui soit assez respectable, j'imagine.
Exactement. Moi, en général, dans les cours, ben, je démontre tous les exercices, je parle, je fais les comptes, je m'assure que pour les répétitions, puis tout ça, mais sans instructeur, ça serait complètement impossible. C'est vraiment un travail d'équipe. Puis, plus que je vais avoir d'étudiants, mais c'est évident que plus que je vais avoir besoin d'aide. En plus des parents. Ça serait impossible également d'offrir la qualité de cours qu'on offre sans l'aide des parents. Surtout au niveau de la communication. Parce que, comme je vous le dis, on a des enfants qui sont. On prend vraiment de tous les niveaux à partir de 3 ans d'autisme. Puis, c'est évident que quand ils ont 3 ans, ça prend beaucoup de patience de la part des parents. Mais je n'ai jamais refusé personne. Je n'ai jamais demandé à personne de partir non plus. Quand même que l'enfant crie. Se roule à terre. On est habitué à ça. C'est tous des parents qui sont habitués à ça aussi.
Mais est-ce que c'est difficile d'enseigner à une classe qui peut paraître dissipée ou avec un trouble à se concentrer longtemps? Est-ce que vous avez des méthodes particulières, par exemple, prendre des séances plus courtes avec des breaks ou...
Oui, effectivement, ça c'est évident, là. Moi, je dirais que la première chose, premièrement, moi, je suis un passionné. Je pense que j'ai eu un cadeau du ciel de voir mon fils s'améliorer à ce point-là. Puis, fait que je suis un passionné. J'ai juré que le restant de mes jours, j'étais pour participer à ces formations-là, faire donner ces formations-là. Puis, effectivement, toutes les 10 minutes, en général, je dois changer d'exercice. Je regarde, il faut être vraiment à l'attention. Un cours traditionnel de karaté là, qui durerait pendant, mettons, on ferait pendant une demi-heure de kata, ça ne fonctionnerait pas. Il faut vraiment là, alterner régulièrement, regarder si les enfants participent, s'ils suivent bien. Puis aussi, c'est évident que moi, j'ai différents niveaux. Hein. Donc, je dois faire des cours différents. J'ai un cours débutant, j'ai un cours avancé. Je ne pourrais pas mettre mes avancés avec les débutants.
C'est ça, sont pas tous regroupés ensemble
Non.
nécessairement.
Non, il faut y aller par les niveaux également, parce que surtout quand tu as beaucoup d'étudiants, je suis conscient que ce n'est pas tout le monde qui a assez d'étudiants pour offrir ça. Mais c'est vraiment ça l'idéal, parce que sinon, les avancés vont vraiment s'ennuyer, parce qu'il y en a qui sont vraiment performants. Là.
Je vous pose la question 2. Est-ce que vous pensez qu'un sport individuel, c'est préférable qu'un sport collectif pour l'épanouissement sportif d'une personne autiste?
Ben, jusqu'à temps que la personne soit consciente qu'il y a d'autres personnes qu'elle, oui. C'est effectivement. Parce qu'en général, les autistes sont plutôt dans une bulle. Puis
ouais.
Ils sont pas mal conscients d'eux autres même seulement.
OK. Uh-huh. Puis ça rejoint ce que vous...
Ça rejoint exactement. D'ailleurs, j'ai un de mes amis, Jean-Charles Grelier, qui enseigne la natation, a dit un pour un, puis je l'endosse à 100%.
Et ça revient à l'exemple de votre fils, en fait, au soccer, que lui, c'était vraiment... C'était difficile pour lui, en fait, de concevoir qu'il y avait deux équipes qui jouaient contre, ou bien c'était de savoir quand passer à son coéquipier.
Exactement. Juste la notion. Hein, il ne savait pas quoi faire avec le ballon. Il le mettait à la défense. Premièrement, il ne voulait pas l'avoir dans le soccer sans que mon épouse participe. Finalement, mon épouse est devenue coach de l'équipe. Puis, il fallait lui crier que le ballon s'en venait. Puis, il a déjà compté dans ses propres buts. Il n'avait pas la notion, c'est ça. Ouais. C'est la notion d'équipe.
Ça lui échappait à ce moment-là.
Marc-Antoine le définit très, très bien. Là. Tant qu'ils n'ont pas réalisé qu'il y a d'autres personnes dans l'entour d'eux, il y en a qui sont vraiment dans leur bulle.
Mais pourtant, le soccer, je vois de plus en plus de reportages puis d'articles dans des journaux locaux et régionaux comme quoi qu'il y a des clubs de soccer pour autistes qui se développent. Donc, il y a quand même une manière d'enseigner ce sport-là aux personnes autistes.
Oui, j'ai des amis d'ailleurs que je connais là, qui le pratiquent. Je pense à Christophe, entre autres, qui est impliqué à ce niveau-là, si je me rappelle bien. Oui, mais c'est justement... Mais les parents doivent s'impliquer beaucoup pour justement... Parce que en fin de compte, on réussit à apprendre n'importe quoi si on met le temps, si on aide nos enfants. Puis ça, je pense que Marc-Antoine pourrait très, très bien vous le définir parce que son père, il peut vous en parler, son père était
Biéviériste.
C'est ça. Puis compte un petit peu ce qui est arrivé avec toi là par rapport, parce que t'es comme... Des fois, tu te qualifies, je suis pas d'accord avec toi, mais comme... Vas-y, je vais te laisser.
Mon père étudiait en biéviérisme, en maîtrise à McGill. Puis développer une méthode pour que je sois capable de fonctionner de façon à ce que les gens ne croient pas que je suis trop différent pour pouvoir m'extraciser.
Stigmatiser.
Ouais, fait que c'est ça. Mon père étudiait là-dedans. Ils m'ont montré comment me comporter. Ça ne veut pas dire que j'ai appris la morale avec ça, là. J'ai plutôt appris à fonctionner de façon à ce que les gens ne comprennent pas, là. J'ai appris la morale en lisant la Bible.
Je l'observe régulièrement dans mes cours, puis tout ça, puis moi, j'ai aucun doute qu'il est vraiment autiste, là, juste dans sa façon d'être. Là. Après de l'avoir vu comme j'en ai vu.
Oui, oui.
Mais c'est ça, il a appris à cacher un petit peu son autisme. Il y a plusieurs autres facettes qu'il pourrait parler, qui le démontrent clairement. Là. Au niveau social encore, il y a des petites difficultés, puis...
OK. Ben, en tout cas, on va pouvoir s'intéresser davantage à votre parcours comme détenteur d'une ceinture d'une ceinture noire en karaté dans un instant dans la suite de l'émission d'Au Signal. De retour au signal, et on s'intéresse toujours à savoir comment l'autisme et le karaté, ben, ça peut être un combo gagnant. Marc-Antoine Bourget, j'aimerais savoir, ça a commencé comment, dans ton cas, ton histoire d'amour personnel avec le karaté?
Mon amour du karaté a commencé quand j'avais à peu près 12 ans, mais j'ai commencé à faire des arts martiaux, j'avais 4 ans. J'ai commencé du judo, puis le karaté est venu un peu plus tard. C'est parce que je parlais pas. Puis tout d'un coup, je me suis mis à parler.
Est-ce que ça a pris du temps avant qu'il y ait cette progression-là ou...
Non, je me suis mis à parler tout d'un coup.
En entrant dans la salle dans la classe?
Non, c'est avant que j'arrive dans les arts martiaux. J'ai tout le temps été dans une chaise avec une ceinture. Là. Je pouvais pas bouger parce que j'étais trop tannant. Puis à un moment donné, il y avait des motons dans mon griot. Fait que j'ai dit, il y a des motons dans mon griot. Puis on a dit, quoi? J'ai dit, oui, c'est ça, parce que vous ne l'avez pas brassé comme faut. Comment ça, brasser comme faut? Ben oui, quand vous le faites cuire, il faut que vous le brassiez jusqu'à temps qu'il refroidisse. Sans ça, il y a des motons dedans. J'ai dit, quoi?
Là, on comprend leur étonnement puis leur surprise.
Oui, c'est ça. Surtout que j'étais capable d'expliquer qu'est-ce que c'est que je voulais dire.
OK, puis est-ce que tu aimes encore ça autant qu'à tes débuts, la pratique du karaté?
Ah, j'aime mieux ça qu'avant.
Oui?
Oui.
Est-ce que d'enseigner, c'est particulièrement gratifiant pour toi maintenant?
Ben c'est, je sais pas si c'est gratifiant, mais j'ai beaucoup de plaisir à faire ça parce que en partageant du plaisir avec les autres, on en a un peu plus pour soi-même.
C'est une. Donc, on comprend que toi, ça a été vraiment une aide fondamentale dans ta vie quotidienne pour la sociabilisation, de pouvoir avoir commencé à pratiquer du karaté. Est-ce que tu peux nous donner un autre exemple de comment cette discipline-là t'est venue en aide dans ta vie de tous les jours?
Ben, je suis capable de bouger, je suis capable d'être en santé, je suis capable de pouvoir m'organiser pour pas perdre mon mouvement. J'ai des incapacités, j'ai le dos cassé, le cou cassé, les jambes fracassées, puis si tu me vois marcher, ben j'ai de l'air bien ordinaire, pareil comme... j'ai de l'air social, même si je suis autiste.
Mais ça, c'est grâce au karaté? Vous pensez que vous avez
Oui.
pu garder la forme physique malgré l'usure du temps, si on peut
Oui,
dire
il y a, ben, il y a des exercices spécifiques là, qui ont été décrits par le fondateur des arts martiaux. C'est ça que je pratique.
ainsi? Puis ça permet de garder la forme physique, en fait.
Puis le mouvement, là, l'étendue du mouvement.
C'est vraiment intéressant. Ben, moi, je connais pas beaucoup le karaté. Je vous ai présenté comme un détenteur d'une ceinture noire, mais c'est quoi les étapes qui mènent à l'obtention de ce qui semble être le Saint Graal du karaté, là?
Ben, tu veux dire une ceinture noire?
Ouais.
Ben, pour obtenir la ceinture noire, il a fallu que je pratique beaucoup, là, que je me rende aux écoles, puis que j'apprenne aussi à écouter le professeur, parce que si j'écoutais pas le professeur, je n'étais pas capable de pratiquer les arts martiaux. Puis aussi de pouvoir pratiquer avec les autres, savoir c'était quoi les limites. Aussi, la première chose que tu apprends, c'est de pas paniquer. Puis de aussi comprendre qu'est-ce que c'est qui peut être les dangers. Ça veut dire qu'il faut que tu contrôles ta peur. Il faut tout le temps que tu aies un petit peu de doute sur qu'est-ce qui va se passer. Mais il faut jamais que tu paniques, puis il faut que tu connaisses tes limites.
Puis en pré-entrevue, vous m'aviez donné un exemple de comment vous enseignez aux enfants où vous n'allez pas nécessairement les emmener à traverser leurs limites, tout d'abord, vous allez les emmener à connaître leurs limites. Puis pour vous, c'était une distinction importante, puis j'aimerais ça que vous me le réexpliquiez là, pour le bien de nos auditeurs.
Bien, en général, quand un autiste arrive à une limite, il veut arrêter là, puis il est prêt à faire des dégâts pour arrêter. Mais puis en général, les gens qu'on appelle neurotypiques, c'est-à-dire qui sont comme les développés neurologiquement comme les autres,
Oui.
eux autres, ils veulent essayer de montrer aux autres comment dépasser leurs limites immédiatement. Tandis que moi, ben, je les amène à leurs limites. Puis s'ils ne veulent pas aller plus loin, ils ne vont pas plus loin. Puis quand ils commencent à trouver ça facile de se rendre à leurs limites, je suis capable facilement de les amener à les dépasser leurs limites. Puis eux autres, ils le font volontairement parce qu'ils comprennent qu'ils sont capables d'aller plus loin.
Est-ce que ça fait partie de l'esprit de votre enseignement, André, aussi, cette
Effectivement.
idée-là? Oui.
On pousse pas les enfants. J'ai déjà eu un enfant que ça lui avait pris 45 minutes juste à il y avait un escalier pour venir au cours, puis ça lui avait pris 45 minutes juste pour se rendre à porte du cours. Donc, il faut être extrêmement patient. Puis, tout à l'heure, j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il a parlé d'un point, là, que des fois, là, c'est ça, quand il a commencé à apprendre à parler, ça peut prendre beaucoup de temps. Moi, je me rappelle, mon garçon, pendant je dirais, des années, il était assis à la table, il faisait des choses, puis je disais, Philippe, je t'aime. Puis je m'ignorais complètement. Jusqu'au jour, à un moment donné, j'étais dans le milieu des escaliers, il m'a rejoint, il m'a pris par la taille, puis il m'a dit, papa, je t'aime. Là, je suis les larmes aux yeux. J'ai vraiment compris à ce moment-là que c'est ça. C'est avec beaucoup de patience puis de persévérance.
Mais est-ce que c'était ses premiers mots? Parce que vous me dites qu'il
non,
était
non, non, non.
non-verbal.
Non, non, il parlait pareil à cette époque-là, mais lui, quand même, que je disais, je t'aime, lui, ça lui passait 100 pieds. Il était quand même assez dans sa bulle, puis ça lui passait 100 pieds par-dessus la tête à l'époque, tu sais. Aujourd'hui, j'ai une relation avec mon garçon, c'est incroyable comment est-ce qu'on passe nos fins de semaine ensemble. On donne des cours le samedi, des cours le dimanche. Toutes les fins de semaine, j'y passe avec mon gars.
Effectivement, cette histoire de gruau, je pense qu'elle va rester gravée dans ma tête vraiment longtemps. Je pense que ça illustre et ça démontre bien comment le sport peut aider à sortir de cette fameuse bulle. Mais je veux quand même qu'on prenne un moment pour parler de cet esprit-là qui peut... on parlait de dépousser les limites, puis moi-même, je suis un peu coupable de ça. J'en parle souvent à mon émission, signale que le sport permet de dépasser ses limites, mais c'est peut-être une pression inutile qu'on met sur les athlètes. Est-ce que je me trompe en disant ça ou...
Bien, au niveau de l'autisme, en tout cas, puis moi aussi, j'enseigne aux gens qui ont des déficiences intellectuelles. J'enseigne aussi aux personnes trisomiques. Puis, définitivement, nous, on n'en met pas de pression. Nous, on n'a pas de pression. Je crois pas à ça. On laisse aller, on lâche prise. Surtout les premiers cours, écoutez, je perdrais tous mes étudiants. Je serais pas capable de. J'aurais beaucoup d'inscriptions, j'aurais aucun suivi. Les enfants laisseraient tomber. Là.
Il y aurait une pression trop lourde sur leurs épaules. Il faut, ouais. comme Marc-Antoine l'a très bien dit, il faut les emmener à connaître leurs limites. Puis après, ce sera à eux de les dépasser s'ils le veulent ou non.
Exact.
Puis, et non nécessairement les emmener par la main puis les forcer à traverser le pont. Faut qu'ils connaissent le pont, ils savent où, puis après ça, ils traverseront s'ils sont prêts.
Puis j'ai beaucoup de cas qui me l'ont démontré au cours des années. Là. Des enfants, il y en avait un, entre autres. Là. Écoutez, tout ce qu'ils faisaient, c'est de fermer les lumières. Il fallait qu'on mette quelqu'un pour empêcher qu'ils touchent au bouton des lumières. Donc, un parent devait surveiller les lumières constamment, tellement qu'il était hyper actif et autiste. Puis là, maintenant, il fait mes cours. Là. Il fait le cours au complet. Là.
Ouais,
puis... Ça a pris énormément de patience avec cet enfant-là. Il est rendu à 13 ans aujourd'hui, là. Mais écoutez...
Ah ouais, puis un autre excellent exemple, c'est effectivement votre fils qui donne maintenant des conférences à McGill.
Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces enfants-là vont vieillir. Hein. Faut vraiment, oui, c'est très, très dur. Moi-même, personnellement, j'ai souffert d'anxiété généralisée à un moment de ma vie. D'ailleurs, j'ai déjà donné une entrevue au Canal Vie à ce niveau. Donc, je suis très, très conscient. Je comprends très bien la douleur des parents. J'ai moi-même très, très souffert. Mais malheureusement, souvent, c'est dans la douleur qu'on apprend les plus belles leçons de vie.
Et puis en terminant, parce que j'aimerais continuer à vous parler encore longtemps, mais le temps file, j'aimerais quand même qu'on donne un mot parce que moi, quand j'ai commencé à faire la recherche là-dessus, les premières images que j'avais du karaté, je vous l'ai dit, j'ai pas vu beaucoup de karaté dans ma vie, mais c'était beaucoup axé sur la confrontation, donc deux personnes qui s'affrontent. Puis là, je me disais, mais comment est-ce que c'est compatible avec l'autisme qui, eux, cherche habituellement à éviter la confrontation.
Ah, justement, c'est que c'est une certaine répétition qui amène une routine dans la vie des autistes, puis ça leur permet de pouvoir se concentrer puis de faire un focus pour pouvoir être mieux capable de fonctionner puis faire la différence entre qu'est-ce qui se passe puis entre chaque événement.
Puis à la base, le karaté, c'est pas nécessairement de la confrontation. En fait, ça devrait pas être de la confrontation.
Effectivement, c'est une méthode de méditation et de développement du mouvement. Puis le combat, c'est une question même assez philosophique. C'était seulement quelque chose qui était apporté parce qu'ils ont changé le bouddhisme en disant que c'était normal de se défendre. Mais tout le monde connaît la phrase « défendre la veuve et l'orphelin ».
Donc au départ, en fait, on peut comprendre que c'est un peu comme avec l'évolution de la société occidentale axée sur la performance, qui a fait en sorte qu'on a comme... insérer en catimini l'aspect de combat dans le karaté?
Ben écoutez, moi, le meilleur exemple que je peux vous donner encore une fois, c'est par rapport à mon fils. Quand il était au primaire, il s'est fait énormément harceler à l'école, menacer, se suivre jusqu'à la maison, même par des enfants qui voulaient le battre. Puis, quand il était rendu au secondaire, il était quand même pas mal avancé au niveau des arts martiaux. Il s'est jamais fait intimider.
Réintimider.
Puis, il s'est jamais battu non plus. Donc, en fin de compte, quand tu as confiance en toi, t'as confiance en tes moyens, tu vas être beaucoup moins vulnérable à être intimidé. C'est qu'est-ce que tu dégages en fin de compte?
Transpire une espèce de confiance. Vous êtes d'accord avec ça, Marc-Antoine?
Absolument.
Puis les combats, nous, on en fait pratiquement pas. Là.
Non, mais on apprend qu'est-ce qui se passe, puis en général, ça décourage plus les autistes de se battre que de les encourager à se battre. Ça dépend, là. Il y en a qui sont très, très performants. Là. Il y en a un...
il fait les gros yeux, Marc-Antoine, je voudrais pas...
Non, mais il est tellement fort, puis il comprend tellement bien comment faire pour donner des coups que faut lui dire, non, faut pas te battre.
Ouais, d'où cette ligne sur laquelle vous travaillez doucement pour faire comprendre, pour transmettre tout cet apprentissage-là, non seulement sur le plan très technique, mais sur le plan philosophique et moral.
On répète constamment qu'ils ne doivent pas faire ces mouvements-là à l'école ou avec les amis.
Ben, je pense que c'est un très bon mot de la fin, mais il faudrait quand même qu'on donne quelques informations si on est des parents à la maison puis on veut inscrire son enfant à cette école. Vous êtes situé à Montréal. Je ne sais pas si à l'extérieur du Québec, il y a d'autres écoles semblables.
Ben, écoute, à travers Adamo, mais moi-même aussi, je suis situé sur la rive sud, sur le boulevard Tachaud à Brossard. Puis je suis à Montréal aussi, au centre récréatif Gadebois. Mais à travers Adamo aussi, on a d'autres écoles. Donc, communiquez avec Adamo, l'Association de développement des arts martiaux adaptés sur le net. Puis j'en profite pour inviter les gens, aussi on donne une formation d'instructeur à Adamo. Ça peut être des parents également, vous n'avez pas besoin d'être instructeur. Le 9 décembre prochain à 9h, On donne une formation d'une journée sur comment enseigner les arts martiaux aux instructeurs, les arts martiaux adaptés. Donc, c'est un rendez-vous, ceux qui veulent, juste vous rendre sur la page de Adamo.
Le 9 décembre. Puis les informations se trouvent également sur autismekarate.com.
Oui, il y a un lien pour Adamo, effectivement.
Excellent. Mais on va mettre le lien, évidemment, sur notre site internet vusevoix.com. C'était une super émission. André, Marc-Antoine, merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui en studio.
Merci, Kevin.
Quelques petites nouvelles pour terminer en beauté cette belle émission. Tout d'abord, Charlottetown accueille le défi mondial de hockey luge cette semaine. Après le succès du défi mondial de hockey sur luge à Charlottetown en décembre 2016, l'événement fera un retour dans la ville pour une deuxième année de suite à l'aréna McLachlan du 3 au 9 décembre 2017. Charlottetown est encore une fois excité d'accueillir certains des meilleurs athlètes de parasport au monde cet automne à l'occasion du défi mondial, a commenté le maire Clifford Lee. Un tel événement crée beaucoup d'enthousiasme et aura un impact sur le tourisme, sans compter qu'il nous laissera plusieurs legs durables pour la croissance et le développement du sport. L'île du Prince-Édouard a une histoire de succès dans l'accueil d'événements internationaux de classe mondiale. Cette année marque la quatrième fois que Charlottetown est l'hôte. Auparavant, la ville a également accueilli les défis mondiaux de hockey sur luge en 2008 et 2009. Lorsque Hockey Canada nous a approchés cet été à propos de l'occasion de prolonger notre soumission d'hôte pour une deuxième année, le comité n'a pas tardé à réunir les intervenants pour que le tout se concrétise, a confié la coprésidente du tournoi, Tracy Stevenson. Avec ces deux événements combinés, la situation fait en sorte que nous générons 1,5 million en retombées économiques au sein de la communauté dans une période de 13 mois, a ajouté le coprésident Dean Lund. Au cours des 10 premières éditions de ce tournoi, le Canada a gagné 5 médailles d'or, 4 d'argent et 1 de bronze. Les Tigres du club Junisport de Montréal ont terminé le tournoi invitation de Power Chair Soccer le dimanche dernier avec une fiche parfaite de 2 victoires. L'événement disputé au centre Anthony Carolla opposait 3 équipes. Les Tigres ont d'abord vaincu le club du Siva de Boucherville par la marque de 3-0. Ils se sont ensuite imposés 4-0 contre les Lions, eux aussi du club Junisport de Montréal. Les Siva et les Lions ont quant à eux fait match nul 2-2. Il n'y avait pas de classement de ligue pour cet événement qui était organisé sous forme de tournoi invitation. Et en terminant, je vous lance une invitation pour vendredi prochain, évidemment pour mon émission, évidemment je vais vous l'écouter, mais vendredi prochain, il va également avoir un congrès de sport adapté organisé par le Défi sportif. Donc si vous êtes un acteur dans le développement d'un mode de vie actif chez les jeunes avec un handicap, vous pouvez participer à cette journée de réflexion. Toutes les informations se trouvent sur alterergo.ca. Il est nécessaire de s'inscrire avant le 1er décembre, ce qui est la date d'aujourd'hui, donc je vous invite à le faire. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je suis très heureux parce qu'on va recevoir la présidente du comité paralympique français, Emmanuelle Hassmann, pour nous parler des Jeux paralympiques qui vont se dérouler à Paris en 2024. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à nos deux invités et merci à Mathieu qui fait toujours un travail exceptionnel pour me donner un décompte à la régie. Merci beaucoup d'avoir été là et gardez le sourire.